Bien.
Attendez, quand même, juste une remarque, monsieur Dubos. Vous avez été en tant que premier adjoint, vous avez voté, et on ne vous a jamais entendu dire que vous n'étiez pas d'accord avec ce report.
Mais madame Brunel, quand on était en réunion avec l'EPA Marne, avec, l'adjointe au scolaire et avec vous-même, on nous a dit systématiquement, il n'y a pas besoin de groupe scolaire là-dessus. Les mêmes réunis, juste après les élections, nous disent, catastrophe, il va falloir effectivement accélérer le processus, parce qu'on a des coups partis, et les coups partis, bah, faut bien les assumer. Et j'en suis aujourd'hui venu à pouvoir répartir les enfants dans des groupes scolaires sur une sectorisation bien plus ouverte, pour ne pas avoir à construire dans l'immédiat un groupe scolaire en centre-ville. Point. Donc, je publierai les coûts supplémentaires des marchés, et je publierai également le nombre de PC induits qui nous oblige aujourd'hui à ouvrir le groupe scolaire numéro 10 en septembre 2019, et les choix qui vont avec. Monsieur Principel.
Oui, j'écoute avec beaucoup d'intérêt votre dialogue, parce que en réalité, il donne de nouveau raison à ce que nous disions dans la campagne. Alors, c'est vrai que les électeurs ont toujours raison, puisqu'ils votent et qu'il y a des victoires. Celle où vous avez gagné ensemble avec Madame Brunel en septembre 2015, vous avez gagné contre nous, par définition. Mais ce que nous disions avec mon équipe à l'époque, d'abord, c'était de proposer la construction du groupe scolaire numéro 10 immédiatement, pour éviter tout ce qu'on subit aujourd'hui. Je me rappelle à l'époque d'ailleurs m'être élevé contre une décision de Madame Brunel et de toute votre équipe qui consistait à reprendre 4 millions d'euros, 4 millions et demi que l'EPA Marne avait fixé pour la construction de ce nouveau groupe scolaire numéro 10, que vous avez ensemble décidé de ne pas construire, de reporter longtemps. Et moi je doute que l'EPA Marne nous dise qu'effectivement il n'y avait pas besoin, la preuve, le besoin est là et c'était pas très compliqué de le savoir, parce que vous avez utilisé, Madame Brunel avec votre équipe de l'époque, ces 4 millions d'euros pour les projeter et baisser le partenariat public-privé sur le gymnase. Mes souvenirs sont extrêmes. C'était une priorité que vous avez fléché cet argent. Oui, ce que je dis, monsieur Dubos, en tout cas il y a 4 millions d'euros qui étaient fléchés sur le groupe scolaire. Et qui était disponible pour cela. Et, bah oui, mais en tout cas, il n'y a pas davantage de salles de spectacle. Pas davantage de salles de spectacle. Et nous disions que cette somme devait être affectée immédiatement à la construction du groupe. On va pas refaire le passé, je suis pas là pour dire. Je suis même un peu gêné de dire, voilà, j'avais raison. C'est triste. C'est triste. Parce qu'aujourd'hui, le retard, il est là. Et comme vous dites, on subit. Et on ne maîtrise pas grand-chose, à part les quelques mesures que vous pouvez prendre pour essayer de baisser le prix. Cela donne raison à ce que nous disions, chacun peut le vérifier, qu'il fallait immédiatement engager dès 2014 la construction du groupe scolaire 10. Et là, pour le coup, malheureusement, le retard, vous l'avez pris collectivement, et aujourd'hui, il coûte cher à la ville.
C'est une des raisons pour lesquelles on a démissionné, et aujourd'hui, les choses sont claires. En tout cas, ce groupe scolaire sera disponible en septembre 2019 pour nos enfants. Nous allons pouvoir passer au vote. Donc, sur les modifications de l'autorisation de programme et crédit de paiement, la construction du groupe numéro 10, y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Merci beaucoup. Alors, la présentation et l'adoption du budget primitif 2018. Je vais laisser la parole à M. Boutillier et j'interviendrai en fin de présentation.
Merci. Donc, nous allons vous présenter le budget primitif 2018, qui est dans la droite lignée du robe, pas de surprise. Les documents, comme vous avez dû le voir, sont identiques, il n'y a pas eu de changement de chiffre. La seule chose à préciser, c'est que les modalités de vote sont par chapitre. Donc, nous allons voter les grands chapitres exclusivement. Donc, concernant notre budget primitif, il s'inscrit, comme nous le disions la semaine dernière, avec un budget équilibré, maîtrisé et ambitieux. Le point 2 sur les grands équilibres, je pense qu'on peut les passer rapidement, puisque je pense que ce qui vous intéresse, ce sont les détails du budget. Évidemment, nous présentons un budget en série équilibre de 14 millions concernant l'investissement qui nous permettra de financer nos équipements par la suite. Concernant les dépenses réelles de fonctionnement, chapitre 011, les charges à caractère général, donc je répète, même montant que la semaine dernière, 20,9 millions avec une baisse de 0,53%, consécutive à l'acquisition pour la majeure partie des véhicules du parc automobile et principalement des services techniques. du poste assurance lié à la renégociation du marché, la baisse de l'affranchissement, puisque nous allons de plus en plus vers la dématérialisation, la baisse des honoraires juridiques. Le chapitre 0.12, les charges de personnel, en hausse de 1,04% pour 15,9 millions. Donc, je répète, l'augmentation du plafond sécurité sociale à plus 1,2, l'augmentation de certaines charges liées au salaire, la CSG entre autres, et l'évolution de la masse salariale sous l'effet du GVT pour environ 70 000 euros. Également, dans le cadre du RIFSEC mis en place depuis le 1er janvier 2018, nous avons décidé de mettre un régime indemnitaire plancher afin de récompenser l'ensemble des collaborateurs à une hauteur d'environ 39 000 euros. Également, les progressions de carrière pour 25 000 euros. De plus, concernant les recrutements, nous avons décidé de nous doter d'un conseiller en prévention, hygiène et sécurité au travail, un responsable périscolaire, un DGA ressources, un agent de voirie et un agent aux espaces verts, et des policiers municipaux afin d'arriver à l'effectif attendu de 34. Concernant le chapitre 0.14, atténuation de charges, donc ça ce sont des produits transformés en charges, tout simplement. Donc c'est par exemple la DGF, pour laquelle aujourd'hui nous sommes contributeurs, pour donc 841 000 euros. Chapitre 65, charges de gestion courante, 1 558 000, une baisse de 25% par rapport à l'année dernière. Cette baisse s'explique simplement par le transfert de la compétence du SDIS à la CAMG. Donc finalement notre budget est quasiment ISO par rapport à l'année précédente. Les charges financières, le chapitre 66, intérêt de la dette, pour 1 million 67 en baisse, que nous n'avons pas spécifié, puisque logiquement nous remboursons notre capital, donc les intérêts baissent avec. Et le chapitre 67, les charges exceptionnelles pour 74 000 euros, qui sont en fait les annulations de titres et les pénalités et autres intérêts moratoires. Chapitre 68, donc très important puisque nous devons les voter, qui sont les dotations aux provisions, provisions pour contentieux dont vous avez déjà le détail, concernant les commandes publiques, l'aménagement et le FPT. Vous avez également en page 9 la répartition des dépenses de fonctionnement, sous forme de graphique. Concernant les dépenses d'ordre, donc opération d'ordre pour le chapitre 0.42 à 3 555 000, qui sont tout simplement les dotations d'amortissement. On retrouve notre chapitre 0.23, donc le résultat qui est viré à la section d'investissement pour 28 millions. Et donc nous pouvons voir l'évolution du chapitre 23, qui est le virement à la section d'investissement, où, comme vous le disiez tout à l'heure, Madame Brunel, vous étiez à 21 millions. Sur 2018, nous serons à 28 millions. Les recettes. Ah oui, avec un autofinancement prévisionnel de 31 767. Ce qui corrobore en fait notre plan pluriannuel d'investissement concernant les prochains GS, la place Vitrina, etc. Concernant les recettes de fonctionnement, chapitre 0.13, atténuation de charges, donc c'est l'inverse d'atténuation de produits, ce sont des charges qui sont transformées en produits, tout simplement les remboursements d'assurance des agents. Le chapitre 70, produits de services, environ 2,1 millions, donc ça, ce sont les recettes payées, issues des services publics payés par les familles. Chapitre 73, impôts et taxes pour 39 millions. 6 millions, dont le détail, impôts locaux pour 27 millions 3, la solution de compensation de 7,9 millions, le FNJR pour 2,2 millions, les droits de mutation pour 1,7 millions, et la taxe sur l'électricité pour environ 350 000 euros. Donc, un petit graphique également vous illustrant la baisse des taxes locales. Donc, nous avons parlé des taux tout à l'heure, ces derniers ne changent pas par rapport à l'année précédente. Chapitre 74, dotation subventions et participations 4,4 millions. Donc, ben, c'est l'évolution de nos dotations, tout simplement. Les recettes CAF, 2,6 millions. Les titres sécurisés pour 15 000 euros. Et la dotation de compensation de la taxe professionnelle pour 1,1 million. Je vous donne que les gros, gros postes. Hein. Chapitre 75, autres produits de gestion courant pour 261 000 euros, qui, ben, principalement, hein, les revenus des immeubles, donc tous les immeubles, entre guillemets, que nous avons en location, et la refacturation à la CAMG, donc 111 000 euros chacun. Chapitre 77, produits exceptionnels pour 31 000 euros, donc refacturation de la location à Citelum, par exemple, ça rentre dedans. Concernant l'investissement, donc je vous rappelle l'autofinancement prévisionnel, 31,7 millions. Donc les principaux investissements en 2018, hein. Je les répète également par rapport à la semaine dernière, création de jardins familiaux, éclairage à la place de la Marne, l'aménagement de la salle Keul, les sanitaires, place de Verdun, et la construction d'un kiosque pour les boulistes. Et également l'acquisition d'un bien immobilier, un local qui sera destiné au service public dans la ZAC du Sycomore. Ensuite, nous avons dans l'investissement tout ce qui est récurrent, j'en ai déjà parlé aussi, donc c'est toutes les opérations de travaux que nous avons sur nos bâtiments, l'entretien, etc., la signalétique, le mobilier urbain, enfin tout ce dont nous avons besoin tous les ans pour garder notre patrimoine. L'acquisition de matériel, de mobilier, matériel informatique et licence, par exemple, 768 000 euros, et une enveloppe d'études qui seront suivies de travaux hors GS10, puisqu'on a déjà parlé tout à l'heure dans la PCP, pour 557 000 euros. La PCP, nous y revenons, puisque nous pouvons en parler également dans le budget, donc nous l'avons voté tout à l'heure, donc c'est la PCP pour l'année 2018, 11,3 millions, et en dépenses, en recettes, 2,9 millions. Les autres chapitres de dépenses en investissement. Chapitre 204, subvention d'équipement versé, 13 000 euros. Donc ça, c'est l'extension du réseau public EDF pour la rocade, le 14 et 16 rocade. Chapitre 16, emprunt et dette assimilée, donc pour 5,2 millions, notre remboursement de dette propre. Les autres immobilisations financières, chapitre 27, pour 10 000 euros. Chapitre 20, dépenses imprévues, en investissement, 900 000 euros. Chapitre 45-41, opération pour le compte de tiers, 1 000 euros. Et en reste à réaliser, 2,8 millions. Le financement des investissements, eh ben, très simple, hein. Le FCTVA, notre port concernant le fonctionnement, la taxe d'aménagement est difficilement évaluable quand même, donc nous n'avons inscrit que 50 000 euros. La dotation aux amortissements, elle est connue, 3,5 millions. Et ensuite, quelques subventions d'investissement de l'État et d'autres collectivités. Nous avons les amendes de police pour 40 000 euros. Les subventions du département, principalement, et fléchées pour la piste d'athlétisme, 148 000 euros. Subvention des PAMARD pour le GS10, que nous avons vu dans la PCP, 2,9 millions. Le solde de subvention concernant les tableaux numériques, 18 000 euros. La subvention de la DRAC pour la Pietra, 3 750 euros. Le chapitre 16, la dette, donc qui est principalement liée au PPP Citelum, éclairage public, pour 570 000 euros. L'autre ressource, je le disais tout à l'heure, c'est l'autofinancement dégagé par la section de fonctionnement pour 28 millions d'euros. Voilà.
Merci, Monsieur Boutillier. Je voulais juste intervenir aussi dans un contexte plus général dans lequel on a construit ce budget particulier 2018 et les suivants, pour vous rappeler qu'on a quand même un contexte extrêmement compliqué aujourd'hui pour les collectivités territoriales, puisque Bussy est impacté de façon majeure par rapport à d'autres collectivités. Je vous rappelle, et on l'avait évoqué lors du ROB, nous avons depuis 2014 perdu en dotation de l'État plus de 4 millions d'euros. Donc si on se réfère à la fiscalité, c'est quand même, je dirais, en point de fiscalité, c'est quand même majeur. Donc cette perte-là fait qu'aujourd'hui, nous n'avons plus aucune dotation d'État. Nous allons sortir en 2020 pour que les queues de dotation, notamment sur la DSU, disparaissent. Et inversement, nous sommes dans une ville nouvelle, donc nous sommes dans une phase de construction de logements, d'équipements. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est parce que nous avons des fonds propres que nous pouvons encore aujourd'hui continuer à investir. Et si on se compare à d'autres collectivités, comme Lagny, Torcy ou d'autres villes de même strate, eh bien, la plupart de ces villes, aujourd'hui, n'investissent plus, parce qu'elles n'ont plus les moyens de le faire. Nous investissons près de 5 millions d'euros par an, parce que nous avons des services à créer, parce que nous avons des équipements à créer, parce que nous avons à rembourser une dette colossale. Donc, tous ces éléments, aujourd'hui, font que on perd des recettes, des dotations d'État. Nous avons diminué volontairement nos recettes par la baisse de la fiscalité. Nous avons forcément des augmentations de dépenses du fait d'accueil de nouveaux habitants et en tout cas de construction de bâtiments. Nous avons un investissement qui est colossal par rapport à d'autres collectivités. Et nous avons désendetté la ville de Bussy en cumulé de 16 millions. Donc, je pense qu'effectivement, la stratégie que nous avions, y compris depuis 2014, est la bonne. C'est celle qui nous a permis effectivement de désendetter, c'est celle qui nous a permis de baisser la fiscalité, c'est celle qui nous a permis d'investir aussi massivement dans une collectivité comme la nôtre. Donc je pense que, comme on disait au démarrage, dans les contraintes actuelles, je ne connais pas une seule collectivité qui est capable de porter ce que nous portons aujourd'hui. Donc ça, nous pouvons effectivement nous féliciter de ce budget. Comme on l'a dit tout à l'heure, il est à la fois équilibré, parce que c'est une nécessité, maîtrisé parce que nous ne faisons pas n'importe quoi, et ambitieux parce que nous sommes aujourd'hui capables d'investir malgré toutes les contraintes que je viens de donner. Donc voilà, donc le débat est ouvert sur ce vote du budget primitif 2018. Donc y a-t-il des questions? Monsieur Carré.
Moi, je voudrais avoir une explication complémentaire sur... sur les dépenses réelles de fonctionnement sur le chapitre 65, les subventions et participations. Donc dans le document qui s'appelle Note, effectivement, à la page 4, on nous précise qu'en 2018, le montant donc, de ce poste-là, subvention et participation, sera de 1 million 558 000 euros. Et quand je lis le détail de ce qui figure en explication, page 6, je compare l'année 2018, 1558 KE, l'année 2017, 2086 KE, effectivement une baisse significative signalée de moins 25%. Ce différentiel, c'est sur ces deux années, c'est 528 KE, mais quand j'additionne les descriptifs du transfert de la compétence du service pompier de la justice, 351 et puis moins 24 aussi, j'additionne ces diminutions, moins 351, plus moins 24 de diminution de subventions et associations, plus moins 59, plus moins 109, plus moins 115, je vois une diminution de moins 658 et je ne retrouve pas la diminution de moins 528. Donc il y a 130 000 euros sur lequel je veux juste une explication.
Bien sûr, monsieur Boutilier.
Alors elle est très simple. Dans la note, vous n'avez que les gros postes. Les gros postes de diminution, de grosses baisses, les montants significatifs. Tout le détail, vous l'avez dans la M14 que vous avez reçu avec, où vous avez tout le chapitre 65 en détail.
La note de synthèse n'a pas vocation à reprendre la totalité de la M14. Donc en fait, on a pris des exemples significatifs qui vous renvoient, et donc vous reprenez la M14,
et vous avez le détail du 65.
Et à ce moment-là, vous avez tous les plus
et là, vous avez l'ensemble des baisses. Il y a plusieurs dizaines de lignes. On ne peut pas vous faire une note de 300 pages sur l'ensemble des baisses.
Donc sur la maquette, vous avez effectivement tout le détail de l'ensemble des chapitres.
Donc il y a certainement des plus, puisque la totalité de ce qui est mentionné en moins est supérieure.
Et oui, mais comme on dit, effectivement, si vous faites référence simplement à la note de synthèse, évidemment, vous ne tomberez pas sur les totaux. Mais vous avez effectivement la totalité des lignes et des mouvements budgétaires dans la M14. Donc je vous invite à regarder la M14 pour avoir l'ensemble des détails.
J'en profite pour signaler que quand je vois la diminution des subventions aux associations...
Vous avez peur pour la musique, oui.
C'est quelque chose, c'est quelque chose qui, de façon globale, me fait dire que, en parallèle de ça, les Saint-Georgiens vont avoir une contribution de leurs impôts fonciers, restant sur le foncier, qui sera au moins égale aux précédentes années. Mais
une baisse de la taxe d'habitation.
Mais les subventions de l'association vont baisser. Et je me dis que la qualité de vie des Luxembourgeois en sera en conséquence un peu amoindrie.
Alors, on ne va pas refaire le débat du Rhône, parce qu'effectivement, nous n'avons pas forcément le temps, mais nous avons attribué en subvention ceux qui étaient, notamment ceux qui ont présenté des demandes de subvention. Donc, je n'invente pas des subventions quand elles n'existent pas. Et contrairement au passé, je n'affecte pas des subventions à ceux qui ne peuvent pas en avoir, notamment quand l'association n'est pas luxembourgeoise. Donc, nous avons des critères. Nous avons, sur le compte administratif, vous verrez ce qui a été consommé correspond à peu près au budget prévisionnel 2018. Ce que nous avons consommé en 2017 en subvention est équivalent au budget 2018 en prévision. Donc, il n'y a pas de baisse objective de la subvention. Ça paraît, c'était le débat effectivement, ça paraissait peu à certains, mais je ne vais pas inventer des subventions qui ne sont pas demandées. Hein, moi, je ne suis pas un adepte effectivement de donner des subventions aux associations qui ont des comptes d'épargne à plus de 10 000 euros, par exemple, clairement. Hein, donc, ce n'est pas l'objet de la collectivité effectivement d'attribuer des subventions à des associations qui ont des réserves financières importantes. Par contre, c'est le rôle d'une collectivité que d'appuyer sur par des subventions, effectivement, des projets d'associations compatibles avec la politique de la commune. C'est ça. Donc, vous verrez effectivement le détail, et notamment, nous sommes à peu près équivalents au consommé 2017.
Ce qu'il faut préciser quand même, c'est que légalement, il faut se remettre dans le contexte de la possibilité pour une ville, une collectivité, peu importe laquelle, de verser une subvention à une association. Il n'y a que deux raisons. Un, subvention d'équilibre. Si l'association est en difficulté financière, on peut, ce n'est pas une obligation, mais on peut verser une subvention d'équilibre pour qu'elle équilibre ses comptes. Et deux, c'est subvention pour projet spécifique. À partir du moment où les associations ne rentrent pas dans ces critères-là, théoriquement, une collectivité locale ne peut pas verser de subvention.
On a eu l'exemple l'année dernière de la subvention au foot, qui n'était pas demandée, mais qui était quand même attribuée. Je dis ça, je dis rien.
Non, mais attendez, apporter un papier, une preuve.
Ah ben écoutez, c'était un des motifs de notre démission, on ne va pas reprendre le débat là-dessus.
Non, attendez.
Mais voilà, donc les subventions aux associations sont équivalentes à celles consommées l'année dernière, et nous attribuons des subventions qu'à celles qui le demandent. Monsieur Lemilour.
Oui, de plus, pour les subventions, il y a certaines choses qui sont prises en compte par la mairie. Je pense par exemple à un praticable. Une association a besoin d'un praticable qui va faire une demande de subvention pour investir dans ce praticable. Nous ne donnons pas la subvention, c'est nous qui achetons le praticable. D'une part, ça nous permet de récupérer de la TVA et ensuite de le doter aux amortissements. Ensuite, il y a aussi une marge de subvention exceptionnelle. Si on a des champions ou quoi que ce soit, ça fait partie de ce réservoir qu'on va alimenter au fur et à mesure. Donc le chiffre que vous avez aujourd'hui, d'abord, il est prévisionnel, et ensuite, il faut le voter, et ensuite, il évolue en cours d'année. Voilà, c'est ce que je voulais apporter comme éclairage.
On l'a bien vu sur les années précédentes, effectivement, quand on a des champions qui sont qualifiés en cours d'année, nous délibérons spécifiquement, effectivement, pour inscrire au budget, des accompagnements, par exemple, ou des voyages, ou des championnats de France ou des championnats effectivement plus internationaux. Donc en tout cas c'était le cas sur les années précédentes, il n'y a aucune raison. Je vous rappelle aussi, comme le précisait Ludovic, nous avons des critères légaux de présentation des subventions. On a des critères internes que nous étions dotés pour éviter n'importe quoi. Et nous accompagnons les associations, notamment par les prêts de gymnase, des prêts de salle, etc., qui sont de tenir compte aussi, je dirais, en comptabilité analytique. Nous les accompagnons. Il y a un service, effectivement, qui est dédié aussi à cela. Nous encourageons, et certaines l'ont fait, à aller aussi chercher des subventions, notamment privées. Hein, notamment, ça peut être le foot par rapport à du sponsoring, ça peut être d'autres par rapport à du mécénat d'entreprises. Et aujourd'hui, les entreprises de Bussy se trouvent tellement bien à Bussy que certaines nous ont proposé, effectivement, de participer au financement, par exemple, de manifestations particulièrement, et notamment sur le sport. Donc ça fait partie des éléments, effectivement, qui ne sont pas aujourd'hui chiffrés dans le budget, puisque nous sommes sur des recettes et des dépenses liées à la collectivité. Y a-t-il d'autres questions ? Madame René.
Oui, alors, revenons aux chiffres. Vous nous, en commission des finances, qui a été très rapide,
nous sommes en plein dedans.
On a quand même eu le traitement de fin d'exercice que vous avez signé, monsieur Dubosc. Alors, je pense que vous l'avez lu intuitivement. On y voit deux fois l'achat d'une voiture 3008 pour 31 000 euros, page 16 et page 11. Alors, est-ce qu'on achète deux fois une voiture 3008 ?
Alors, juste pour préciser non, ce non. document, alors vous, avant que vous alliez plus loin, juste pour vous préciser.
Mais je pense qu'il y a des erreurs parce que.
Non, justement.
Ah, dites-moi.
Je vais vous répondre.
Comme on n'a pas eu le temps de le voir en commission des finances, c'était très vite. Quand je l'ai regardé chez moi.
Mais vous aviez le temps de poser des questions.
Attendez, monsieur Dubosc, ça durait 20 minutes. On a regardé juste la note de synthèse. Mais permettez-moi, monsieur Boutillier, oui. d'aller jusqu'au bout de la question et vous répondrez.
Je veux juste pour répondre rapidement sur ce document
ouais.
spécifique. Il est en deux parties. C'est sur les.
Si.
Il est en deux parties. Il faut bien lire le libellé du document. Traitement de fin d'exercice
ouais.
reste à réaliser.
Oui,
là, on est bien sur le document
oui,
reste à réaliser.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Donc, vous avez la partie reste à réaliser.
On est d'accord.
Et la partie dégagement créé. Donc, crédit engagé. Donc, ce n'est pas en double.
D'accord.
Vous avez la partie. C'est un jeu d'écriture que nous. Enfin,
d'accord, on est d'accord.
Pour la comptable qui nous prouve qu'on a bien engagé.
Bon, cela dit, ça appelle quand même ce document. Attendez, ce document appelle quelques petites remarques.
Allez.
Je vois achat d'une voiture pour 31 000 euros,
oui.
un climatiseur à 5 255 euros, on refait le balcon du maire pour 8 000 euros, et puis il y a les frais d'études du cabinet Merlin pour 76 800 euros. Donc, c'est quoi les frais d'études du cabinet Merlin pour 76 000 euros ? 76 800 euros, papier signé par vous, je ne sais pas ce que c'est. Et alors, dans les AMO, j'ai commencé à faire l'addition des AMO, parce qu'il y a 600 000 euros d'AMO pour le groupe scolaire, mais dans les AMO là, je suis à plus de 400 000 euros. Bien sûr, j'enlève les centimes et les trucs. On est à plus de 400 000 euros dans ce papier d'AMO, je vous signale.
Oui.
Bah oui, donc, les AMO en 2016, parce que pour le budget, moi j'ai repris le compte administratif 2016 et votre budget, j'ai regardé ligne par ligne, donc on va, j'ai des questions à vous poser. Il y a un bondissement des AMO. Quand on est arrivé, on avait justement, il y avait des AMO, très conséquentes du temps de l'ancien maire. On avait, avec M. Schmitt, réduit les AMO. Il y a pour à peu près 400 000 euros d'AMO. Voilà, et puis on voit un certain nombre de choses. Donc, les frais d'études du cabinet Merlin pour 76 800.
C'est sextant. Concernant Merlin, c'est sextant.
Le contentieux sextant. Bah, vous avez été maire quand même
depuis. Oui, non, mais tout à fait.
C'est un contentieux.
Non, mais c'est un nouveau cabinet d'avocats, c'est très bien, c'est votre droit de.
Non, c'est le même.
Il a changé de nom ?
C'est le même, mais non. On est sur des provisions d'études depuis 2014. Donc, effectivement, c'est le même cabinet qui traite la même affaire.
Concernant le véhicule, je vais vous répondre.
Ah non, mais c'est très bien. Hein.
Non, mais je vous réponds, puisque vous l'avez mis.
Parce que c'est marqué.
C'était une voiture qui était en location, donc qui passait en fonctionnement, ce qui ne nous arrangeait pas forcément. Notre section de fonctionnement, on doit la réduire. C'est un véhicule qui consommait en moyenne. C'était une essence automatique, en moyenne 15 litres au 100. Donc, si vous voulez, mis tout ça bout à bout, j'ai décidé, je le dis clairement, de changer de véhicule pour un véhicule plus économique, avec un moteur plus petit.
En
investissement, ce qui nous permettra de ne pas avoir un fonctionnement supplémentaire.
Alors, sur les frais d'avocat, je pense qu'effectivement, là-dessus.
Oui.
Et sur la, mais je réponds aux questions. Hein. Et sur les AMO, à partir du moment où on a des projets qui rentrent en effectivité et qui sont importants, forcément, les AMO suivent le même parcours. Quant aux frais d'avocat, Là-dessus, je voudrais quand même pas qu'il y ait d'inquiétude par rapport au budget précédent sous votre responsabilité, puisqu'on est passé en cumulé de 2014 à 2016, on est à 577 000 euros, dont 380 000 euros pour un cabinet. Pareil, on va publier les chiffres aussi.
Je fais les comptes administratifs,
c'est-à-dire le résultat réel des consommations de frais d'avocat depuis 2014.
Oui, mais attends, 2014, pendant 3 mois, on est arrivé, il y avait 250 000 euros d'honoraires de rendez-vous.
Oui. Bon, aujourd'hui, 380 000 rien pour un cabinet.
On voudrait faire, nous, le groupe, un certain nombre de remarques.
Eh bien, faites.
Bon, on remarque quand même que vous avez le recrutement des responsables périscolaires en lien étroit avec l'IFAC, alors que M. Mézeroy et son équipe le faisaient très bien. Est-ce que ce n'est pas une façon d'aider l'IFAC, puisque vous nous avez dit que l'IFAC reprenait le marché Téligo au même prix, s'il vous plaît, au même coût, alors qu'on voit qu'il y a subitement un recrutement d'une personne pour s'occuper de l'IFAC. Bon, alors qu'avant, il n'y en avait pas besoin.
C'est pas de s'occuper de l'IFAC, c'est de s'occuper du périscolaire.
Oui, mais M. Mézeroy et son équipe l'ont toujours bien fait.
Non, mais vous savez, effectivement, et vous avez toujours cette tendance à trouver du mal partout. Le lancement du recrutement du responsable du périscolaire a été lancé avant la passation de Téligo à IFAC. Aujourd'hui, on estime qu'il est nécessaire d'avoir un cadre sur le périscolaire, parce que ça nous permet effectivement d'éviter des surcoûts supplémentaires que nous facturait aussi Téligo sur des opérations, et d'avoir une politique, je dirais, de suivi, parce que ce que l'on a aujourd'hui comme difficulté, c'est qu'on a beaucoup de contrats longs et beaucoup de contrats chers, et qu'on ne les suit pas. C'est clair. Et donc, résultat, effectivement, quand on a des facturations ou autres, on n'est pas en mesure de pouvoir déterminer si la facture est réelle au service fait. Donc, aujourd'hui, effectivement, dans l'ensemble des dispositifs, on aura du suivi d'entreprise. Et donc, on a un suivi aujourd'hui du périscolaire. On est à peu près à 4 millions d'euros de versement de prestations sur le périscolaire. Il est nécessaire, effectivement, qu'il soit suivi. Donc, ce recrutement-là était de toute manière engagé avant l'affaire du passage de Téligo à l'IFAC.